il est toujours très utile de considérer la vie de notre Seigneur et de la méditer. Cela est très utile à de nombreux points de vue, mais notamment cela est utile pour savoir comment nous-mêmes nous devons agir. Et particulièrement, cela est utile aussi pour savoir, pour les prédicateurs, comment ils doivent prêcher. Si vous voulez, nous allons méditer aujourd'hui ce que doivent être les prédicateurs et la manière, ou plus exactement, l'objet de leur prédication. Ce que doivent être les prédicateurs, eh bien, le choix que notre Seigneur lui-même en a fait est très parlant. Il n'a pas choisi ses apôtres parmi les philosophes grecs, pleins d'éloquence et de sagesse. Il ne les a pas choisis non plus parmi les lettrés, comme les scribes et les pharisiens, qui étaient des gens très versés dans la loi et dans toutes les sciences humaines. Il ne les a pas choisis non plus dans un milieu scientifique capable de démontrer des vérités scientifiquement. Il a choisi de pauvres artisans. La plupart d'entre eux étaient marins. Il a même choisi au scandale. Il a même choisi un précepteur d'impôts, Saint Matthieu. Et il a choisi des gens qui étaient sans culture humaine, qui n'avaient pas fait de lettres, qui étaient, on pourrait presque dire, grossiers et non polis. Voilà les prédicateurs qu'il a choisis dans leur simplicité. Il est évident que la sagesse humaine ne peut que lui reprocher un tel choix. Comment est-il possible que, Seigneur, pour convaincre le monde entier de votre doctrine, vous avez choisi des gens si simples? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher des gens qui avaient une grande éloquence? Il faut de l'éloquence pour convaincre les foules. Et notre Seigneur de dire, je vous rends grâce, Père, de ce que vous avez caché cela aux sages et aux savants, et de ce que vous l'avez révélé aux tout petits. Et la très sainte Vierge dans le Magnificat, il a descendu de leur trône les puissants et il a élevé les humbles. Si les apôtres, on contemple un petit peu quelques-uns des prophètes, certainement un des plus grands, le grand législateur de l'Ancien Testament, Moïse, quand notre Seigneur le choisit, Moïse lui dit, « Oh Seigneur, pas moi, j'ai déjà été expulsé d'Égypte parce que j'ai voulu défendre quelqu'un de votre peuple, et puis je ne sais pas parler, ils ne vont pas m'écouter. Aidez-moi, venez à mon aide, ne me laissez pas moi devoir guider votre peuple, ce n'est pas possible. » Et notre Seigneur lui dit, « Tu iras, et je te donnerai la force nécessaire pour le diriger. Cependant, pour ta consolation, je te donnerai comme auxiliaire ton frère Aaron, qui lui sait bien parler. Et dans les occasions solennelles, tu pourras toujours avoir recours à lui. » Si l'on considère Jérémie, le prophète Jérémie, quand notre Seigneur le choisit, il lui dit, « Ah, 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 Domine, nesholokui, puer ibosum, ah, 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 Seigneur, je ne sais que balbutier, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un petit enfant, un petit serviteur. Jamais ils ne m'écouteront. » Et notre Seigneur lui dit, ne dis pas, je suis un petit serviteur et un petit enfant, car je te ferai fort comme une colonne de fer. Et je te donnerai force pour résister au roi, au prince et au grand prêtre. Et tu leur diras de ma part la vérité. Et Jérémie a dit la vérité jusqu'à se faire mettre en prison. Et une fois sorti de prison, il en continua encore à dire la vérité. Si l'on prend, on passe dans le Nouveau Testament, on voit le Saint Curé d'Ars. Mon Dieu, vous n'allez pas choisir un tel prédicateur. Regardez le mal qu'il a eu pour arriver à faire ses études, à peine le niveau pour arriver au sacerdoce. Qu'est-ce que vous allez faire avec un prédicateur pareil? Choisissez-nous un bossuet, un bourdalou, ou quelqu'un comme ça, mais pas quelqu'un comme le père d'art. Oui, bon, à la rigueur, pour la campagne, vous pouvez toujours l'envoyer dans la plus petite cure de campagne. Là, il pourra bien s'en sortir. Eh bien, ce petit prédicateur de campagne qui parlait à ses paysans avec toute la simplicité requise, il est devenu pratiquement le modèle des prédicateurs, un des grands modèles des prédicateurs. Il y a bien sûr quelqu'un de très lettré qui est le patron des prédicateurs, Saint Jean Chrysostome, parce que la science non plus, quand elle est bien ordonnée, elle est bonne. Mais après lui, eh bien, c'est le Saint Curé d'Ars qui est le patron des curés, de tous les curés du monde. Et souvent, quand les curés se disent comment toucher les fidèles, eh bien, ils n'ont qu'à aller lire dans le Saint Curé d'Ars pour s'inspirer un petit peu de sa force apostolique et évangélique. Et il a eu un tel rayonnement, qu'on venait à l'époque, en 19e siècle, depuis le Canada et l'Amérique, alors je ne sais pas combien de semaines il faisait de voyage pour venir voir ce pauvre prédicateur et pour lui demander la confession. Pourquoi? Parce que selon le monde, il n'avait pas une grande instruction, mais il était rempli de la sagesse de Dieu au point de lire dans les âmes. Bienheureux êtes-vous, Seigneur, car vous avez caché cela aux savants et aux sages, et vous l'avez révélé aux tout petits. Si l'on regarde encore l'exemple de Saint Germain Cousin, ou Saint Germain de Fibrac, qui ne savait ni A ni B, et qui précédait combien de savants exégètes, combien de savants théologiens dans la science de la sainteté, et Saint Jeanne d'Arc, elle aussi ne savait ni A ni B. Et il a fallu que, en nom de Dieu, elle tienne tête à toute une assemblée avec des évêques, des cardinaux, enfin un cardinal, et puis toute une assemblée de clercs, savants et lettrés. Et puis en nom de Dieu, elle devait dire la vérité. Si on passe maintenant à la façon de prêcher, eh bien, on retrouve la même chose, cette simplicité évangélique. Nous avons pris tout à l'heure l'exemple du Saint Curé d'Ars. Un prédicateur aurait fait des tas de circonlocutions pour expliquer que, vous comprenez, la promiscuité des sexes entraîne des occasions de péché et donc il faut l'éviter, etc. Le Saint Curé d'Ars, lui, prêchait avec une très grande simplicité. Et il disait à ses paroissiens, il y a des garçons et des filles qui montent dans les arbres pour cueillir des fruits ensemble. C'est mal. Et avec ces paroles toutes simples, il faisait mille fois plus de bien qu'avec des quantités de circonlocutions. Et pour toute sa prédication, de la même manière. Si vous prenez au XVIIe siècle, on peut comparer un bourdalou, un bossuet, qui certainement fait beaucoup de bien également, avec un Saint Vincent de Paul. Quelle simplicité dans la prédication de Saint Vincent de Paul, il parlait deux ou trois points qu'il développait avec des exemples, et puis il demandait à ses missionnaires de parler le plus simplement possible. Eh bien, quand on voit le rayonnement surnaturel des uns et des autres, on ne peut pas dire que Bourdalou et Bossuet n'ont pas eu un grand rayonnement, mais le rayonnement d'un Saint Vincent de Paul est beaucoup plus grand que le leur. Avec sa simplicité évangélique. Il peut y avoir une alliance des deux, si on prend à la même époque quelqu'un comme Saint Jean Eudes, qui était à la fois érudit et simple, eh bien il a eu un rayonnement qui était semblable à celui de Saint Vincent de Paul. Mais voyez comment la simplicité évangélique, même dans la façon de prêcher, est requise. Et c'est celle-là qui touche. Regardez encore notre Seigneur quand il prêche les grandes vérités. Vous pourrez là encore lui dire, Seigneur, mais ne prêchez pas ça. Les gens ne sont pas capables de les comprendre. Vous avez prêché sur la Sainte Trinité. Peut-être les savants arriveront à le comprendre, mais pas les gens du peuple. Vous prêchez encore pire sur la Sainte Eucharistie. Mais qui va accepter cela? Et de fait, quand notre Seigneur prêche, il a bien préparé le terrain, il a parlé du pain de vie, ceci et cela, il a bien préparé le terrain avant pour amener peu à peu les gens à le comprendre. Mais un jour, il faut dire clairement la vérité. Et notre Seigneur, au moment où ça doit arriver, dit clairement la vérité. Et quelle est la réaction de la plupart? Durus est hic sermo. Ce sermon est trop dur et on ne peut pas le supporter. Et la plupart d'entre eux s'en vont. Alors notre Seigneur, n'insistez pas, s'il vous plaît, d'ailleurs vos apôtres sont encore fidèles, n'insistez pas parce que vous allez les faire partir eux aussi. Et vous, dit notre Seigneur en s'adressant à Saint-Pierre et à travers lui à tous les autres, et vous, vous aussi, vous allez me quitter? Et les apôtres lui disent, non, vous avez les paroles de la vie éternelle. Et là, on voit justement que les gens simples, eh bien, ils font confiance à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement de l'Église. Et quand ils rencontrent la parole de notre Seigneur et l'enseignement de l'Église, même s'ils n'en comprennent pas toutes les raisons, ils savent, par la sagesse que le Saint-Esprit leur inspire, que cet enseignement est celui qu'il faut suivre. Que cet enseignement est celui de Dieu, et que même si les mystères nous dépassent, eh bien il faut y croire. Car même les plus grands savants, eh bien, ne sont pas capables de comprendre ces mystères, ce sont des mystères qui nous dépassent, tant la Sainte Trinité que la Sainte Eucharistie, que le mystère d'iniquité que nous vivons actuellement, ce sont des mystères qui nous dépassent. Il y a des données de la parole de Dieu, il y a des données de l'enseignement de l'Église qui sont claires et nettes. Il faut s'en tenir à ces données, même si les tenants et aboutissants, on ne les comprend pas toujours. Si l'on médite sur ce passage, est-ce que notre Seigneur savait qu'il allait faire partir beaucoup de monde? Et oui, il le savait, il est Dieu, il savait tout. Est-ce que notre Seigneur voulait faire partir un seul d'entre eux? Oh, bien sûr que non. Il s'est incarné pour leur enseigner ses vérités et pour les amener tous à son Père. Bien sûr que non, il ne le voulait pas. Mais alors, s'il le savait, mais pourquoi l'a-t-il fait? C'était pas prudent. Il fallait mettre les formes, il fallait patienter encore, encore et encore. Alors pourquoi a-t-il dit comme ça la vérité à ce moment-là? Eh bien, il avait préparé suffisamment les esprits et il savait que la foi est exigeante. La foi ne se discute pas. Quand il y a une donnée de foi, eh bien, il faut s'y soumettre. C'est le rationale obsequium, la soumission de l'intelligence dont parle saint Paul et auquel il faut se soumettre. Encore un exemple de cette simplicité évangélique. Au concile de Nicée, il y avait un philosophe qui avait été invité, un philosophe païen, et puis après les discussions sur les hérésies d'Arius, il avait demandé des explications sur l'existence de Dieu, sur la création, sur la Sainte Trinité, et puis les pères, qui étaient en général des gens très instruits malgré tout, étaient en train de lui donner des arguments philosophiques très poussés. Et lui leur donnait des objections à ses arguments. Alors voilà que un évêque qui avait été martyrisé sous Julien l'Apostat, on lui avait coupé l'œil droit et la main gauche. Dans sa simplicité, il lui a dit, écoutez, voilà, ceci c'est l'enseignement de Dieu. Dieu qui s'est incarné. Et si Dieu nous enseigne, c'est pas à nous les hommes de faire des objections, et il faut faire confiance à l'enseignement de Dieu, et s'il nous a révélé ces mystères nous dépassent, Dieu étant infini, ces mystères nous dépassent, nous devons lui faire confiance. Eh bien c'est lui qui a converti le philosophe en question, avec ses arguments tout simples, avec ses arguments de foi. On pourrait dire également, pour être impressionné aussi, quelquefois on est impressionné par l'âge de l'un ou de l'autre. sauf celui-ci, il est vraiment jeune pour prêcher. Celui-là, c'est quelqu'un d'âgé, il est sage. Eh bien, là aussi, l'Écriture nous montre que ce n'est pas une question d'âge. Regardez Daniel, le prophète Daniel. Il était encore tout jeune quand notre Seigneur l'a inspiré pour confondre les deux vieillards, les deux juges, de leur impiété vis-à-vis de la chaste Suzanne. C'était deux vieillards qui avaient tout le respect qui était dû à leur âge, à leur sagesse, à leur science. Ils avaient jugé souvent et de bonne manière. Mais voilà que, à la fin de leur vie, certainement ils avaient commis d'autres péchés avant, Dieu a permis qu'ils tombent dans ce péché de convoitise. Et puis pour se rattraper, ils ont accusé de leur péché la pauvre et chaste Suzanne. Et qui, le bon Dieu, a-t-il inspiré? Un tout jeune homme qui commençait à peine ses premières armes de prophète, le jeune Daniel. Pour en revenir au concile de Nicée, ça a été la même chose. Il y avait là un parti d'arien-disant, au moins l'évêque qui était pour la miséricorde envers Arius. Il ne fallait pas trop le condamner. Il fallait être miséricordieux. Il fallait essayer de donner une explication catholique, de le convaincre, mais il ne fallait pas le condamner. Eh bien, qui le bon Dieu a suscité dans cette assemblée d'évêques? Un tout jeune diacre, saint Athanase, qui était là avec son évêque, et c'est lui qui a eu les lumières pour en remontrer à cette assemblée d'évêques. Alors, l'important, c'était les lumières, le Saint-Esprit, il souffle où il veut. Est-ce qu'il était de l'Église enseignante ou est-ce qu'il était de l'Église enseignée? Il était de l'Église enseignée. Est-ce que les évêques étaient de l'Église enseignante ou de l'Église enseignée? Ils étaient de l'Église enseignante. À qui Dieu, sur le moment, a donné ses lumières? À un pauvre petit qui était de l'Église enseignée. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas celui qui prêche, c'est la vérité qu'il prêche. Ce à quoi nous devons faire attention dans un sermon, c'est à la vérité elle-même. La vérité elle-même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à celui qui l'annonce. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est à ce qui est dit, et non pas à la façon dont cela est dit. Et je dirais que plus c'est dit avec simplicité, et plus ça pénètre facilement les âmes. Parce que là, on s'attache au fond et pas à la forme. Quand on a des grands prédicateurs comme Bossuet, bien sûr, c'est aussi agréable et ça fait aussi pénétrer le fond. Mais quelquefois, on est pris par la tentation ou quoi de ne faire attention qu'à la forme. Oh, c'était un très beau sermon. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit le prédicateur? Ah ben, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que ça m'a fait du bien, que c'était très beau, que c'était très, très développé. Oui, d'accord, mais le fruit que vous allez en tirer, ceux qui auront de la mémoire ou quoi, profiteront de l'un et de l'autre. Mais, encore une fois, même le grand saint Jean Chrysostome, qui a un style qui est très beau, eh bien, en général, il commente d'abord l'Écriture, et après, il en vient sur les implications morales. Et il ne s'adresse pas aux gens qui sont à Rome ou à Jérusalem, il s'adresse aux gens qui sont soit en Chios devant lui, soit à Constantinople devant lui. Et il reprend exactement les erreurs de ceci et de cela. Il ne va pas chercher celle abstraite sur le vice. Et c'est ce que nous dit encore saint Thomas à Kempis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Il vaut bien mieux pratiquer la vertu que d'en savoir la définition. Par conséquent, il convient à l'école de notre Seigneur, à l'école des apôtres, à l'école de ses disciples, à l'école des prophètes, à l'école des prédicateurs, des saints prédicateurs, il convient de nous humilier devant la parole de notre Seigneur, devant l'enseignement de l'Église. Quand l'on rencontre une parole de notre Seigneur et qu'on en sait l'interprétation authentique, eh bien il faut s'y soumettre. Quand on rencontre un enseignement de l'Église et que l'on en sait l'interprétation authentique, il faut s'y soumettre, même si moi j'étais à penser autre chose. Eh bien, non, il faut se soumettre. La foi, ça ne se discute pas, et les implications, ça ne se discute pas. Quand je rencontre telle et telle loi dans le code de droit canon, il faut s'y soumettre. Sinon, on se met au-dessus de l'Église. Il faut nous humilier, comme notre Seigneur, qui s'est humilié jusqu'à s'incarner. On dit, il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et effectivement, on nous parle de la passion et de l'humiliation de la passion parce que ça nous touche de plus près. Mais l'humiliation de l'incarnation est mille fois plus grande. Si on arrivait à comprendre qui est Dieu et qui s'est fait homme, eh bien, on verrait que l'incarnation est mille fois plus humiliante que la passion. Parce que de l'incarnation à la passion, il n'y a pas un si grand espace, étant donné que quelqu'un qui est homme, eh bien, il doit mourir normalement. Tandis que de Dieu à un homme, il y a un espace infini. Donc, nous humilier pour, avec notre Seigneur, être glorifié et élevé. Nous humilier pour être exalté, et non nous élever de peur d'être humilié. Et il faut encore méditer, en finissant, sur ces paroles de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, les prostituées et les voleurs vous précéderont dans le royaume de Dieu. Quand on entend ces paroles, heureusement que c'est notre Seigneur qui les a prononcées, parce que, bien entendu, il ne s'agit pas des prostituées et des voleurs restant ce qu'ils sont, mais les paroles se sont réalisées, je vous en cite deux exemples. Les prostituées converties comme Sainte Marie-Madeleine, vous précéderont dans le royaume des cieux. Et les voleurs, comme le bon larron, convertis sur la croix au dernier moment, vous précéderont dans le royaume des cieux. Et cette dernière parole, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.